de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour philosopher en dehors des clous aujourd'hui et nous interroger sur notre présence au monde. Comment éprouver le mystère, l'immensité du temps, la petitesse de nos vies, le sublime de la nature de manière cosmique? Comment vivre aujourd'hui une sagesse sans morale? Dans la boîte à outils de notre invité, le philosophe Michel Onfray, il y a des anguilles et des chevaux de labour, des pierres qui pleurent et des bulles de champagne, mais aussi des philosophes grecs, des poètes japonais et des astrophysiciens. Un univers chiffonné où brille très fort une étoile polaire que nous allons suivre ensemble autour de la question « Pourquoi une philosophie du cosmos ?» Bienvenue. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous faire partager votre philosophie personnelle de la nature, celle que vous vous êtes construite pierre à pierre, ou plutôt livre après livre, plus de 80 ouvrages parus à ce jour. Il faut dire que vous êtes un formidable passeur de philosophie, créateur de l'Université populaire de Caen, philosophe hédoniste, matérialiste, médiatique, critique et polémique, auteur entre autres d'une contre-histoire de la philosophie. Vous n'avez pas votre pareil pour nous faire passer Épicure, Nietzsche ou Spinoza, mais aussi pour agacer les bien-pensants et même les autres. Vous aimez philosopher en dehors des clous et vous venez de publier le premier tome de votre brève encyclopédie du monde, rien que ça. Ça s'appelle Cosmos, c'est paru aux éditions Flammarion. Pourquoi une philosophie du cosmos, Michel Onfray?
Bon, je pensais que vous alliez me demander pourquoi brève encyclopédie. Une philosophie du cosmos parce que je l'ai ressenti et expérimenté, c'est-à-dire que je n'écris que ce que sur ce que je vis ou sur ce que j'expérimente. Et il se fait que mon père est mort dans mes bras une nuit de l'Avent. Je dis ça dans une perspective plutôt païenne. L'Avent est une fête chrétienne, comme chacun sait, mais le christianisme emprunte beaucoup au paganisme. Et j'ai compris que mon père était en train de mourir. Et au moment de ce passage vers le néant, j'ai eu l'impression d'hériter d'une immense force, de sa force. Et alors évidemment, je ne crois pas à l'âme, je ne crois pas au fait que l'âme serait partie dans le ciel chrétien ou ce genre de choses, donc je suis un véritable athée, et pas du tout un agnostique. Pour moi, Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'arrière-monde, mais la mort est là. Et quelque chose a eu lieu dans la mort de mon père, dans mes bras très précisément, alors que je fais le tour du monde, je circule, je vais, je viens, j'aurais pu ne pas être là, ce jour funeste, et quelque chose a eu lieu qui renvoyait au cosmos. Donc j'ai voulu penser ce cosmos que j'ai expérimenté, d'autant que, petit garçon, quand mon père était ouvrier agricole, il m'avait appris les étoiles, il m'avait expliqué l'étoile polaire, il m'avait dit quelle était la première levée, la dernière couchée, et qu'elle indiquait toujours le nord. C'était une espèce de leçon de sagesse, qui était une leçon de morale, mais pas une morale moralisatrice. Enfin, il y avait une espèce d'indication dans cette leçon d'astronomie populaire, comme on disait à l'époque de Camille Flammarion. Et il se fait que le soir où je l'ai conduit de la maison que j'ai dans mon village natal à sa propre maison, au pied de cette église, il m'a dit « il faut que je me mouche », on était sur cette petite place d'église, j'ai regardé le ciel et je lui ai dit « ce soir on verra pas notre étoile polaire », il m'a dit « non, ce soir le ciel est couvert », et puis il est mort dans mes bras. Donc cette expérimentation cosmique du cosmos, j'ai voulu voir ce qu'elle signifiait, et un petit peu comme une pelote de ficelle, on tire et ça vient. Je commence ce livre en racontant la mort de mon père et comment je repars un petit peu à la quête et à la recherche de mon père, avec un champagne 1921, puis avec des anguilles. Les étoiles m'avaient enseigné l'espace, le temps, la durée. Les anguilles m'ont enseigné la géographie. Donc c'est une expérience philosophique qui est une autobiographie, ce cosmos.
Expérience philosophique que nous allons essayer de vivre ensemble autour de la question « Pourquoi une philosophie du cosmos ?» On commence par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix forcément cosmique de Guillaume Ploquin.
Cosmos, c'est le philosophe qui secoue les idées et qui crée les polémiques. Son dernier livre interroge notre rapport à la nature. Ses leçons de sagesse sont vivifiantes. On peut applaudir Michel Onfray.
La question à la fois de la malfaisance du christianisme, si l'on peut dire, est très présente tout au long du livre, mais en même temps l'importance aussi d'Épicure, de Spinoza et de Nietzsche y est sans cesse présent. Mais c'est surtout un livre qui ouvre vers de nouveaux horizons.
On l'appelle le pivot du ciel et c'est un titre mérité.
L'étoile polaire semble rester immobile. Malheureusement, cette étoile n'est pas toujours facile à trouver parmi les autres.
Je me suis aperçu qu'il y avait en fait une corrélation intime possible entre la science du savoir astronomique, de la perception que les savants se faisaient du cosmos au cours du temps, et la poésie.
Les biologistes aussi réfléchissent sur les cosmos, parce que le microcosme est un cosmos à lui tout seul.
Von Humboldt a laissé un texte mémorable où il allait essayer de comprendre comment les êtres vivants, plantes et animaux, vivent ensemble, comment tout ça crée une unité de la nature.
Tous les pêcheurs dans les marais Poitevin et autres connaissent très très bien les anguilles jaunes et elles font tout pour essayer de partir d'où elles sont, alors que là, d'habitude, elles sont très très bien.
Mais il est intéressant maintenant de se poser la question de ce que pensaient nos ancêtres, d'Orient et d'Occident, à travers leur spiritualité et leur religion.
Un lithophone, c'est une simple pierre. Les néolithiques ont réussi à préserver leur son dans de la pierre.
Si je comprends bien, le cosmos pour les Grecs, c'était le bon ordre par opposition au chaos qui était au contraire le désordre.
Finalement, c'est une question d'échelle et on pourrait se poser la question, est-ce que finalement le cosmos est inhérent à l'infini ou pas ?
Michel Onfray, à quelle échelle ça commence, le cosmos ?
À l'infiniment petit. Je pense effectivement que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont assez semblables et que on essaie de savoir ce qu'il y a au bout du bout et qu'il suffirait parfois probablement d'aller au fond d'une cellule parce que ces deux infinis se rejoignent. Et puis, on est dans la sensation et la perception de l'infini. Il y a des moments où on essaie de le faire sentir par des images. Alain disait, imaginez un oiseau qui passerait tous les 1000 ans et qui effleurerait de son aile une boule de billard en or, par exemple. Imaginez le temps qu'il faudrait pour qu'elle soit usée. Ou quand je faisais cours à mes élèves, je leur expliquais l'image que prend Lucrèce en disant, mais imaginez ce qu'est l'infini. C'est-à-dire quand vous envoyez un javelot, par exemple, il y a un moment donné où si le monde est fini, qu'est-ce qui se passe? Donc il continue toujours et donner l'impression de l'infini, c'est commencer à toucher du doigt ce que le cosmos oblige à penser.
Vous dites dans ce livre, Cosmos, Michel Onfray, qu'on souffre de l'oubli du cosmos aujourd'hui.
Oui, je crois. C'est-à-dire qu'on a souffert de l'oubli de la nature, même si les écologistes ont contribué d'une certaine manière à ramener la nature au centre de nos préoccupations. Ils ont bien fait. Alors, je ne parle pas de l'écologie de la politique politicienne, qui est plutôt pitoyable, mais la pensée écologiste, ou des gens comme Pierre Rabhi, qui nous ont fait la démonstration, effectivement, qu'on avait oublié la nature et qu'on pouvait la remettre au centre de notre préoccupation. Mais je pense que plus largement, le cosmos est encore plus oublié. Parce que on parle du climat, aujourd'hui, on parle beaucoup du climat en nous disant voilà, il y a une responsabilité des hommes, c'est évident. Mais il n'y a pas que la responsabilité des hommes. Il y a une vie du cosmos qui nous est à peu près inconnue, mais qui est susceptible d'être vue, saisie et comprise, par exemple, avec les carottes qui sont faites dans la calotte glaciaire. C'est-à-dire, on sait très bien comment le climat a évolué quand même les hommes n'étaient pas sur la planète.
C'est-à-dire que pour nous ramener au monde, ou nous rappeler le cosmos, vous faites appel, en tant que philosophe, à tous les philosophes que vous avez lus, mais pas seulement, vous faites appel aux scientifiques, aux astrophysiciens, aux éthologues, aux botanistes,
beaucoup,
aux géologues.
Oui, bien plus, parce que j'ai vraiment l'impression que la culture, c'est une invitation, la culture en Occident, chez nous, je veux dire, c'est une invitation à demander au livre une réponse aux questions que nous nous posons. Ce qui n'est pas le cas dans l'Europe, en dehors de l'Europe, par exemple, c'est-à-dire si on va en Afrique, si on va rencontrer des sorciers africains, des chamans en Amérique du Sud, voir des chamans en Sibérie, si on va voir des gens qui sont shintoïste par exemple au Japon, on découvre que le livre n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de la médiation du livre pour comprendre le monde, mais qu'il suffit juste de regarder. J'ai souvenir en Mauritanie par exemple, sur le toit d'une maison, d'avoir entendu un Touareg qui nous racontait des histoires et des légendes. J'avais l'impression qu'en levant le bras, on pouvait toucher les étoiles, et j'ai beaucoup plus appris ce jour-là dans cette expérience existentielle qu'en lisant les météorologiques d'Aristote par exemple, ou un gros traité de l'histoire du cosmos, de l'Antiquité jusqu'à
nos jours. C'est tout de même étonnant d'entendre le philosophe Michel Onfray, lui-même auteur de 80 ouvrages, et de cette brève encyclopédie du monde, de nous dire que finalement c'est dans la nature, au plus vrai, auprès quoi, des animaux, en regardant les plantes, en regardant le ciel, qu'on avance et qu'on se rapproche du cosmos, de sa réalité, de ce qu'on est.
Oui, parce que j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup lu de choses inutiles. Et c'est vraiment quand on a beaucoup lu qu'on sait qu'on a lu beaucoup de choses inutiles. Parce que parfois on se dit, j'ai lu tout ça, mais à quoi bon? Il m'en reste quoi? Et quand j'ai découvert les haïkus, il y a très très longtemps,
poésie japonaise, très court,
très très court. Oui, c'était un ami qui était dans la librairie d'Argentan où j'ai vécu, une ville où j'ai vécu, qui est maintenant au Japon. J'étais pas très sensible à ça quand j'avais 19 ans, 20 ans. Je trouvais ça un peu niais. Et puis je suis revenu un jour avec une espèce de sidération en me disant, mais voilà, trois petites phrases, quelques mots, une vraiment
vous
une poignée
de
mots. Non, je n'ai rien de par cœur. Non.
Alors écoutez, je vous propose, puisque je sais que au niveau sensibilité, non, je propose pas un haïku. Je propose parmi tous ceux qui philosophent en dehors des clous d'écouter Alain Bashung sur RFI, ça vous va?
Très
Vénus.
Bien.
L'Inde venimeux, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante. Les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, Vénus, Vénus.
Vénus, Alain Bashung. Sur RFI, pourquoi aimez-vous Bashung, Michel Onfray?
D'abord, ce texte est magnifique. Je pense que c'est un grand poème. Alors, il se fait que quand un poème est mis en chanson, on a l'impression qu'il perd en qualité poétique, alors que c'est faux. Lui-même était un grand poète. Sa vie était poétique aussi, je trouve. J'ai eu la chance de pouvoir le saluer quelque temps avant sa mort. On était dans un même restaurant. Je fais jamais ça. J'embête pas les gens et j'ai pas le.
Mais là, pour Bashung, vous avez fait une exception.
Oui. Et j'ai pas l'admiration facile, mais je suis allé lui dire deux mots en lui disant que j'embêtais pas. Il y avait quelque chose de triste dans son sourire et de pétillant en même temps, mais cette chanson est magnifique. Et puis cette expression guidée par une étoile, ça aurait pu être le titre de Cosmos.
Votre inspiration justement pour écrire ce livre Cosmos, pour cette philosophie personnelle de la nature, vous la puisez, on l'a dit, auprès de scientifiques, notamment de physiciens et d'astrophysiciens. C'est donc tout naturellement que je vous propose tout de suite d'écouter Carlo Rovelli, physicien, philosophe et théoricien de la gravité quantique à boucle, qui a une question pour vous.
De la grande pensée grecque, nous avons la plupart des œuvres de Platon, la plupart des œuvres d'Aristote. Nous avons presque rien de Démocrite. Moi, je pense que c'est une tragédie absolue, parce que l'énorme corpus de livres de Démocrite est perdu, et nous le connaissons très mal par Épicure, par Lucrèce, mais très peu. Et là, il y avait une grande philosophie, un grand savoir, athée, matérialiste, légère, libre, très naturaliste. Peut-être le grand naturalisme de l'Antiquité. Et je pense que c'était une tragédie pour l'Occident d'avoir gardé Aristote, perdre Démocrite. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que Michel Onfray pense de ça et comment il pense que ça aurait pu être le monde si, au contraire, on avait gardé Démocrite et perdu Aristote.
Votre réponse, Michel Onfray.
C'est une très belle question. On fait de l'uchronie, là, comme on dit, c'est-à-dire on écrit l'histoire en disant si ceci, alors cela, et je pense que...
La science-fiction ou la philosophie-fiction.
Oui, mais je pense que c'est pas possible de penser comme ça, parce que le christianisme est incompatible avec Démocrite et la philosophie de Démocrite.
Qu'est-ce qu'elle avait de si fort, la philosophie de Démocrite?
Elle était ultra-matérialiste, c'est-à-dire que pour Démocrite et les matérialistes, il n'y a que de la matière. Donc on peut pas délirer sur la présence réelle ou symbolique du corps du Christ dans l'Eucharistie, par exemple.
Il n'y a que de la matière, mais ça n'enlève rien ni au sublime, ni à la beauté.
Ah, mais bien sûr.
Ça, hein.
Parce qu'on est dans une idéologie spiritualiste, judéo-chrétienne, qui laisse croire que quand on dit qu'il n'y a que de la matière, on n'aurait pas de spiritualité possible, on serait des brutes épaisses, ou etc. Bien sûr que non, il y a une spiritualité matérialiste, et les atomes sont subtils, enfin c'est compliqué quand même, la physique, la morale des matérialistes de l'Antiquité. Mais je crois que le christianisme a effectivement réalisé un véritable auto-da-fé. D'abord, il y a eu le temps, il y a eu la destruction des manuscrits qu'on ne recopie pas, et puis ensuite, l'idée qu'on a besoin d'une philosophie qui justifie le christianisme, donc au fur et à mesure, les bibliothèques sont détruites, le christianisme est imposé brutalement et violemment, on a détruit des bibliothèques, on a assassiné aussi des philosophes, on a interdit les transmissions, on n'a pas recopié les manuscrits, on les a brûlés, ils ont été détruits, et Platon, qui lui-même voulait faire un auto-da-fé au temps même de Démocrite, des œuvres de Démocrite, a obtenu cet auto-da-fé avec le christianisme, parce qu'effectivement, il nous reste pas grand-chose.
Sauf qu'aujourd'hui, avec précisément les atomes, la science, la matière, ramène finalement ces idées matérialistes un peu sur le devant de la scène, et quand vous parlez du cosmos, quand vous posez ces questions face à la mort de votre père, c'est cette philosophie-là, cette sagesse-là, dans laquelle vous allez puiser.
Absolument, parce que moi, je ne crois pas à l'immatérialité du monde, ou à des existences de choses immatérielles. C'est l'âme immatérielle de Pythagore, de Platon, des chrétiens, je n'y crois pas, évidemment. L'âme, elle existe pour moi, mais elle est matérielle. C'est-à-dire qu'elle est composée, elle se décompose au sens étymologique, c'est-à-dire le jour où nous mourons, ce qui constitue notre âme se défait, ce qui ne veut pas dire qu'elle cesse d'exister, parce que tant que l'âme d'autrui subsiste dans notre propre âme, elle dure encore un peu, différemment, mais c'est une espèce d'immatérialité très matérielle, puisque c'est le souvenir qui constitue la durée d'une mémoire perdue ou d'un corps perdu, mais on peut être beaucoup plus subtil qu'on ne le dit avec une pensée matérialiste, et de fait, toutes les intuitions de Démocrite sont vérifiées aujourd'hui par la science, c'est-à-dire quand il nous dit qu'il voit, et tout le monde a vu ça, tout le monde a fait cette expérience, un ray de lumière, vous savez, l'été, quand on ferme les volets et qu'il y a ces jalousies qui laissent passer la lumière, et on voit des poussières qui dansent, et on dit que Démocrite aurait eu l'intuition des atomes à partir de cette vision-là des choses. Donc on voit bien aujourd'hui qu'avec la théorie des cordes, ou etc., enfin tous les gens qui pensent l'énergie, la constitution de la matière, on ne fait jamais que creuser le sillon ouvert par Démocrite.
À nos auditeurs à Lomé, au Togo, il s'appelle Maman, vous envie de vous poser quelques questions, notamment le rapport entre votre cosmos et le cosmos des Grecs, mais aussi quel rôle joue la physique quantique aujourd'hui justement dans la connaissance du cosmos?
Alors le cosmos des Grecs, il est divers et multiple. Le cosmos d'un stoïcien n'est pas le cosmos de tel ou tel pré-socratique. Il y a quand même l'idée qu'il y aurait un éternel retour des choses et que le temps serait
cyclique. Hein.
Voilà. Et le temps cyclique, ça nous étonne aujourd'hui nous en Occident, parce que c'est le nôtre qui fait la loi et que le temps occidental il est linéaire. On pense que le passé est derrière nous, le présent est là où nous sommes et le futur devant nous, et qu'il y a une espèce de ligne qui suppose la parousie des chrétiens, la parousie. C'est l'idée que le Christ reviendra pour sauver l'humanité définitivement. Ça veut dire que cette conception du temps, elle laisse de côté le temps cyclique, qui lui suppose l'éternel retour des choses, le recommencement. Alors soit dans les mêmes formes, comme dit Nietzsche, l'éternel retour du même, soit dans des formes différentes, c'est-à-dire que reviennent la vie, la naissance, l'amour, la mort, ça disparaît, ça revient, etc.
Temps cyclique qu'en Orient on n'a pas oublié,
absolument,
qu'ailleurs en Afrique on n'a peut-être pas oublié non plus.
Vous avez raison, tous les gens qui sont des philosophes sans avoir besoin des philosophes, ou tous les philosophes africains, tous les philosophes asiatiques, tous les philosophes amérindiens qui n'ont pas lu Spinoza mais sont spinozistes sans le savoir, sont des gens qui savent bien qu'il y a un éternel retour des choses, parce qu'il y a la nuit et le jour, parce qu'il y a les saisons, parce qu'il y a les cycles dans l'humanité, et qu'effectivement nous avons perdu le sens des cycles. Donc mon cosmos est un cosmos d'une certaine manière plus grec que chrétien, ça paraît évident, parce que le christianisme a rempli le ciel d'archanges, d'anges, etc. Et moi j'essaie de le vider pour retrouver les planètes qui s'y trouvent.
Autour de la question, pourquoi une philosophie du cosmos en continu de voyage pour nous ramener au monde et à une nature élargie, avec vous Michel Onfray, ce sera dans 3 minutes, suite juste après le flash d'info sur RFI. À tout de suite.
contacter autour de la question @rfi.fr.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en compagnie du philosophe Michel Onfray. Autour de la question, pourquoi une philosophie du cosmos ? Nous nous demandons comment coïncider avec le monde, comment renouer avec l'idéal païen d'une sagesse humaine en harmonie avec le cosmos. Piste de réponse en forme de question, celle que vous pose François Métivier, un rock philosophe qui lui aussi aime bien philosopher en dehors des clous et qui a bien lu votre œuvre, Michel Onfray, notamment Cosmos, votre dernier opus paru chez Flammarion.
Bonjour Michel Onfray, je pense que vous êtes obsédé Michel par le rond, parce que vous avez commencé par le ventre des philosophes. Le ventre c'est plutôt rond, ça peut être plat mais en tout cas c'est pas carré. Le cosmos on se le représente comme effectivement quelque chose qui relève de la sphère et du rond. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas chez vous une obsession du rond et la manie de vouloir, la bonne manie de vouloir tout expliquer par ce qui est rond, alors que la philosophie peut aussi être très carré finalement?
Carré ou ronde, la philosophie, selon vous, Michel Onfray?
Alors bon, je suis bien obligé d'assumer le ventre du philosophe, parce que c'est...
Eh oui, c'était votre premier livre.
Eh oui, hein. C'est pas mon titre, c'est un titre d'éditeur. Donc, j'aime pas le mot ventre, que je trouve assez trivial. Et ce livre-là s'appelait Diogène Cannibale. Donc, Diogène Cannibale...
Ça fait pas le même effet.
C'est pas
hein.
le même livre, mais c'est pas du tout le même livre, même. Mmh. Et on avait démarré avec un Goya dévorant ses enfants, Diogène Cannibale. C'était pas du tout le même livre que le ventre des philosophes, avec une jolie nature morte du...
Donc, c'est pas un rond adoucissant.
17e. Non, il y avait pas de rond. Par ailleurs, je ne crois pas que le cosmos soit rond. Justement, l'intérêt des astrophysiciens, c'est de nous sortir de ces vieilles visions du monde et de nous obliger à penser en dehors de des trois dimensions.
Dodécaédrique, hein, le cosmos, oui, selon Jean-Pierre Lumine, que vous aimez bien, c'est Guillaume Ploquin de l'autre côté de la vitre qui me le rappelle.
Oui, c'est extrêmement intéressant la proposition de Jean-Pierre Lumine, par exemple, dans une trois dimensions. Si on sort du studio par le plafond, on va dans la pièce du dessus, et puis si on sort du studio par le plancher, on va dans la pièce du dessous. Mais dans ces dimensions-là, quand vous sortez par le plafond, vous revenez par le sol, par exemple. Ce sont déjà des habitudes.
Gymnastique de l'esprit costaud.
Et là, c'est déjà pas beaucoup. Hein. C'est déjà très peu de choses par rapport à justement ces dimensions, ces X dimensions qui font effectivement que la figure du rond, la figure du cercle, la figure de la sphère, ce qui n'est pas exactement la même chose non plus, ce sont des belles figures de l'Antiquité, mais qui n'ont plus lieu du tout aujourd'hui pour penser le cosmos. C'est une espèce d'illusion d'optique d'une certaine manière qui rendrait bien compte de ce qu'est véritablement le cosmos. Il est fini mais sans borne, nous dit Jean-Pierre Lumine. Donc évidemment, une sphère c'est fini et avec borne. Non, du fini sans borne ne permet pas de penser le cosmos en termes de cercle et de rond.
Donc il faut arriver à penser autrement, même qu'en forme de rond ou qu'en forme de carré. Il faut arriver, à la fin de ce livre en cosmos, vous nous donnez pas mal de maximes qui résument un peu votre philosophie. Vivre le temps des astres plutôt que celui des chronomètres, nous dites-vous.
Bah oui, regardez comment on est contraint par la montre, et la plupart du temps on mange parce que c'est l'heure du déjeuner ou du dîner, mais pas parce qu'on a faim, pas forcément, et on finit par avoir faim à l'heure du déjeuner ou à l'heure du dîner. On dort parce que c'est l'heure de dormir et pas forcément parce qu'on a sommeil. Et d'ailleurs on se réveille non pas parce que on a envie de se réveiller, mais souvent, hélas pour beaucoup de gens,
parce
qu'il faut se réveiller. Voilà, donc ce sont des chronomètres qui nous font vivre selon leur ordre. Et cette temporalité, elle est évidemment politique. Le temps, c'est pas de l'argent par hasard pour le capital et le capitalisme. Quand Michel Siffre, par exemple, descend...
Alors, spéléologue qui est descendu...
Absolument, dans un gouffre. Quand il descend dans un gouffre et qu'il coupe toute relation avec le chronomètre, avec la mesure du temps, et qu'il dit, ben voilà, maintenant, je ne sais plus si c'est le jour ou si c'est la nuit, si je dois manger ou si je dois dormir, ou si je dois, etc., etc. Il commence à vivre selon l'ordre de son caprice, et on découvre à ce moment-là qu'il y a une biologie interne, une temporalité interne qui n'est plus du tout la même. Donc je n'invite pas à ce que chacun rentre dans une grotte et finisse par vivre comme ça, mais j'invite à ce que chacun soit à l'écoute de lui-même pour découvrir ses propres rythmes. Et
Ce qu'on fait de moins en moins aujourd'hui.
Tout ça, c'est-à-dire on a un enfant, quand on l'éduque, on lui apprend qu'il faut se lever, se coucher, se laver.
Mais en même temps, en société, c'est quand même un petit peu obligé. Oui.
C'est le propre de la société. Mmh. Voilà pourquoi je n'ai pas fait d'enfant. Mais je veux dire que effectivement, il y a des gens dont la vie est ultra chronométrée. Et puis des gens dont la vie est moins chronométrée. Je pense par exemple à des gens qui vivent dans des déserts ou qui vivent dans des pays comme l'Afrique par exemple, où on voit bien que il n'y a pas un chronomètre pour nous obliger à faire ceci ou cela, mais des choses à faire. Il faut aller chercher du bois parce que le bois va permettre de chauffer, ce qui va nous permettre de manger. Il faut traire les vaches parce que on a besoin du lait etc.
Mon père avait origines paysannes.
Oui, mon père avait une montre à gousset par exemple, et c'est intéressant le principe de la montre à gousset. C'est-à-dire que c'est dans une petite boîte qui est dans la poche et elle est accrochée, cette montre, avec une chaîne. Ça veut dire que pour regarder l'heure qu'il est, il faut faire un geste, enfin, qui n'est pas du tout le même que de jeter furtivement un coup d'œil sur une montre pour voir l'heure qu'il est. Parce que mon père savait quelle heure il était en regardant le ciel. Et quand il regardait sa montre à gousset, c'est parce qu'il avait besoin de quelque chose de plus précis. Mais il savait, à la hauteur du ciel, à la hauteur du soleil dans le ciel, dans le jour de l'année que nous étions, qu'il était midi, le temps d'aller manger, par exemple, de poser sa fourche.
Nostalgie, Michel Onfray, de ce temps-là, justement, non. De ce rapport-là au monde?
Alors oui et non. Non, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que c'était mieux avant, qu'il faudrait revenir à cet état-là, etc., etc. Mais oui, parce que je pense qu'il y a des leçons à prendre pour qu'aujourd'hui, dans notre monde, on puisse vivre autrement. C'est-à-dire qu'on ait un rapport au temps qui fasse qu'on soit plus maître du temps que l'inverse, c'est-à-dire c'est souvent le temps qui est maître de nous. Et je pense qu'il faudrait inverser cette perspective. Nous sommes des esclaves du temps et le temps devrait être notre esclave. Donc j'invite à cette perspective-là, mais pour chacun. C'est pas facile quand on est ministre, par exemple, ou quand on est paysan, enfin bon, de fonctionner dans un rapport où le temps est notre propriété et nous ne sommes pas la propriété du temps.
Autour de la question, pourquoi une philosophie du cosmos? Je propose un nouvel éclairage en forme de question à nouveau. C'est celle que vous pose l'astronome Denis Savoie, spécialiste des cadrans solaires et des gnomons de mesure du temps.
Je pense que Michel Onfray doit être un amoureux de Lucrèce et du De Natura Rerum, qui est un grand texte redécouvert au XVe siècle par Lepage. Et je sais que Lucrèce devait certainement avoir une philosophie du temps, et je voulais savoir comment Michel Onfray percevait justement cette mesure du temps et ce temps chez les philosophes de l'Antiquité.
Que pouvez-vous répondre à Denis Savoie sur le temps des philosophes de l'Antiquité, Michel
Onfray?
Alors,
c'est pas du tout la même chose suivant qu'on est chez Platon, chez Aristote ou chez Lucrèce, par exemple. C'est vrai que chez Platon, c'est la forme immobile de l'éternité immobile. Chez Aristote, on est plutôt dans une logique de la mesure. Et chez les épicuriens, on est dans une logique matérialiste qui suppose un écoulement des simulacres. Donc, moi, je ne me reconnais pas dans l'image platonicienne. L'image mobile de l'éternité immobile, ça suppose une éternité qui soit immobile. Et là, on retrouve la remarque de Francis tout à l'heure, de Francis Métivier, sur cette idée effectivement que la sphère pourrait être la figuration d'imperfection. Ça se trouve chez Parménide. Et puis Platon reprend ces choses-là. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée d'une éternité qui serait immobile et d'un temps qui serait mobile et qui participerait de cette idée de l'éternité, de l'immortalité. Non, je crois vraiment qu'effectivement, il y a un flux et que ce flux, il est cosmique. C'est-à-dire que le vieillissement n'est pas le même, évidemment, chez l'éphémère, comme on dit, c'est-à-dire chez l'insecte qui est l'éphémère, ou chez un baobab, mais qu'il y a une inscription.
J'ai un arbre baobab, oui, entre un insecte éphémère et un baobab, le temps n'est pas le même.
Absolument, et qu'il est inscrit dans la biologie. Et là, je suis un vrai matérialiste, je reviens à Michel Siffre, parce que Michel Siffre découvre que, d'une certaine manière, chaque cellule est comme un réveil remonté.
Chaque cellule de notre corps.
Oui, est comme un réveil remonté. C'est-à-dire qu'il y a un ordre temporel qui est proprement matérialiste. Ce qui fait que nous sommes remontés pour être vieillards, ou pour mourir vieux, ou pour mourir jeune. Enfin bon, il y a des aléas, bien sûr, mais que le temps n'existe pas dans l'absolu, mais relativement à celui qui l'expérimente, et il n'est n'est pas en dehors de celui qui l'expérimente, mais inscrit dans l'espèce de code des cellules qui fait qu'effectivement il y a un temps biologique.
Alors celui qui l'expérimente, c'est nous, ce sont les hommes. Vous avez parlé des arbres, des plantes, des insectes, des animaux. Votre rapport aux... Des pierres aussi. Oui. C'est ça, c'est-à-dire dans votre monde et dans le cosmos, dans lequel nous sommes, nous les humains, il y a à côté les pierres, les animaux, les plantes, sortent quoi d'alter ego différents.
Oui, parce que les pierres vieillissent, sauf qu'elles vieillissent selon une durée qui nous est absolument imperceptible, donc on ne voit pas. Mais il faudrait en accélérer, montrer comment de la fusion originale jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qu'on obtiendra dans des milliards d'années, les pierres vont changer d'état. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait qu'on puisse filmer la progression d'une plante. Ça se fait aujourd'hui, vous savez, on met une caméra, on fait une image toutes les minutes, et puis au bout du compte, on les projette en accéléré, et on voit la plante qui sort, qui grimpe, qui s'en va vers la lumière, et puis qui tombe et qui s'en va et qui disparaît, etc. Et là, pour le coup, on voit qu'une plante, c'est du vivant, qu'il y a une intelligence de la plante, qu'il y a une communication durée vécue, qu'elle communique, bien sûr, vous avez raison, et que c'est visible, donc on voit bien qu'il y a un temps intrinsèque à la plante. Et que c'est la saison qui fait l'ordre de ces choses-là, mais que parfois vous avez des graines qui tombent au pied d'un palmier et que l'ordre de cette graine, c'est parfois 80 ans. Tous les 80 ans, vous avez une floraison. Et quels que soient les endroits, le palmier Talipo, par exemple, là où est le palmier Talipo, il fleurit, alors je sais pas exactement quelle est la date, mais à une récurrence qui est exactement la même, quelle que soit la latitude. Donc évidemment, comme on n'a pas un procédé technique, on pourrait le faire de manière virtuelle, mais qui nous permettrait de montrer en accéléré ce qu'est la vie d'une pierre, ben on pense que la pierre n'a pas de vie. Et pourtant, Jean Mallory a travaillé sur les éboulis, c'est-à-dire sur la vie des pierres, sur l'évolution des pierres avec le vent, la pluie, le froid, la dessiccation, la sécheresse, ce genre de choses.
Votre sagesse à vous, Michel Onfray, c'est de faire ce constat-là déjà, de voir que chaque pierre, chaque plante, chaque animal a son temps à lui, sa vie à lui, et que quoi, d'arriver à le contempler, à le comprendre.
À savoir que nous sommes partis d'un grand tout qui obéit aux mêmes lois. C'est-à-dire que les lois auxquelles obéissent, je sais pas, les plantes dans mon jardin sont les mêmes que celles auxquelles j'obéis. Alors évidemment, on ne le dit pas, mais je veux dire, depuis Darwin, il y a quand même eu cette idée en 1859 qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. Je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin et découvrir qu'il en va de même pour les arbres. Il y a par exemple des acacias qui ont été mis en péril dans un parc par des impalas qui les mangeaient. Et donc les impalas,
c'est une sorte d'antilope.
L'antilope, oui. L'antilope agressant l'écorce, enfin l'arbre en mangeant son écorce, les acacias ont commencé à communiquer entre eux. D'abord, ils ont sécrété un produit qui a intoxiqué les animaux, et puis ensuite, par éthanol, c'est-à-dire par un gaz, ces arbres ont communiqué, et les autres acacias qui n'étaient pas attaqués en tant que tels ont été avertis du danger qu'il y avait, et ont produit cette toxine qui les rendait impropres à la consommation. Ça s'appelle l'intelligence. La conscience, l'intelligence, la communication, la transmission.
Chez les acacias.
Chez les acacias. Donc vous voyez que quand Jean-Marie Pelt fait un travail extrêmement intéressant sur...
Grand botaniste, philosophe aussi.
Oui, pharmacologue. Qui sait ce que sont évidemment les molécules intimes de toutes les substances de la pharmacie occidentale, mais qui a découvert que en Amérique du Sud, par exemple, des chamans utilisaient des plantes pour soigner et pour guérir, et qu'il disait voilà, cette plante elle soigne ceci. Et lui, il est rentré avec les plantes en question, il en a fait l'analyse spectrale, et il a découvert effectivement que les substances que ces chamans prêtaient à ces plantes étaient les substances que nos pharmacologues prêtaient également aux mêmes plantes.
Donc il y a Sabrina Krief au muséum travaille avec des singes qui eux aussi se soignent.
Absolument, vous avez raison.
En prenant des plantes qu'elle-même étudie ensuite.
Absolument, sagesse empirique. Donc c'est une sagesse empirique qui s'est transmise de manière orale, et vous voyez qu'on n'a pas toujours besoin des livres.
Et en même temps, c'est vous qui dites ça, je le rappelle, le philosophe Michel Onfray, vous avez les yeux qui brillent quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi? Ça permet aussi de développer un autre rapport au monde, humains, pauvres humains, qui pensons peut-être tout savoir, absolument, et qui essayons quand même de tout comprendre.
Livre aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui disent arrêtez de lire. Je suis de ceux qui disent lisez les livres qui vous ramènent au monde et pas les livres qui vous éloignent du monde.
Les livres qui vous ramènent au monde.
Oui. C'est-à-dire plutôt un traité d'apiculture, par exemple, que
sur les abeilles.
Oui, que je sais pas quoi, une histoire de la métaphore de l'abeille dans l'histoire de la philosophie. On en apprend plus dans un traité d'apiculture que dans le livre dont je parlais, par exemple. Mais ce qui n'empêche pas évidemment qu'on en apprendra encore plus au contact d'un apiculteur qui va sortir les rayons.
Vous avez toujours pensé ça, ou c'est petit à petit, au fur et à mesure de votre carrière de philosophe et après avoir avalé tant de livres?
Oui. Non, je me suis désintoxiqué. Je pense que j'ai été intoxiqué très tôt parce que je suis le produit aussi de mon époque, de mon temps, d'une formation philosophique à l'université, etc., où on nous dit que la vérité du monde est dans le livre qui dit le monde. Mais ça, c'est la vieille histoire des monothéismes. Quand on nous dit tout est dans le Talmud, ou tout est dans la Bible, ou tout est dans le Coran, pas la peine d'aller chercher les autres livres. Tout est là. Donc, si vous vous posez des questions sur le ciel ou sur les abeilles, sur les pierres, je ne sais quoi, toutes les questions que vous pourriez vous poser ont leur réponse dans ces livres-là. Et donc, les livres ne sont jamais que des gloses, enfin, sont trop souvent des gloses, des commentaires, des entre-gloses, le texte dit, le texte qui dit le texte qui, etc. Puis vraiment, on se dit, mais et si j'allais voir par moi-même? Et quand on va voir par soi-même, on découvre qu'effectivement, il vaut mieux un traité sur la marine qu'une histoire des marins, mais en même temps, il vaaut mieux un marin que le traiter sur la marine.
Ou aller sur la mer, carrément.
Aller avec lui, bien sûr, sur la mer, et puis se faire expliquer les vents, les courants, les couleurs, les ondes, la qualité des écumes, ou ce genre de choses. Et je pense effectivement qu'il faut réduire au maximum les livres, et ne lire que les bons.
Alors, ne lire que les bons pour goûter au beau aussi, pour s'approcher du beau. Enfin, il y a quand même cette...
Oui, parce qu'il y a des livres qui mettent de l'ordre dans le monde, puis après des livres qui mettent du désordre dans le monde. Il y a des livres qui vous rendent plus confus après les avoir lus que d'autres, et d'autres qui vous paraissent effectivement lumineux, et quand vous les avez lus, vous vous dites, oui, bien, bon sens, c'est bien sûr.
Donc les livres qui ramènent au monde, les musiques qui ramènent au monde, oui. Parmi celles qui ramènent au monde, et même au sublime du monde, il y a Philip Glass. Mmh. On écoute Closing. Michel Onfray, pour vous, cette musique, c'est une voie d'accès au sublime.
Oui, parce que j'ai été aussi insensible à cette musique-là, à une époque où je pensais qu'il fallait aimer Boulez, le sérialisme, le dodécaphonisme, où je découvrais cette musique-là comme une musique qui aurait été la vérité historique de la musique. Et là aussi, il m'a fallu me désintoxiquer en me disant, mais oui, d'accord, c'est une musique intéressante, elle a sa raison d'être, comme l'art minimal, conceptuel, etc. Et on va pas revenir là-dessus. Mais il y a cette autre musique qui est minimale et répétitive, américaine, la plupart du temps, Phil Glass, Steve Reich, la Monte Young, un petit peu en amont, ou d'autres, qui Arvo Pärt aujourd'hui, qui ne sont pas des Américains, mais...
Qui ramène à quoi? Quelque chose
alors, qui ramène au monde, parce au que monde, je crois oui. que vous avez là l'équivalent du bruit que pourrait faire le monde s'il y avait un bruit du monde ou du cosmos. C'est-à-dire que Elle est minimale, donc il n'y a pas grand-chose, il y a très peu de choses, et elle est répétitive, c'est-à-dire qu'elle se répète, mais elle ne répète pas le même. C'est-à-dire que vous avez une répétition, et que vous avez l'impression que c'est une musique qui se répète, sauf que, 10 minutes plus tard, toutes ces micro-répétitions auront été bouleversées parce qu'il y aurait eu juste une autre note un peu différente.
Donc c'est un mouvement, c'est une sorte de répétition
Voilà. Et je pense que le monde s'est constitué comme ça, une espèce de répétition, des cycles, des rythmes, et que de temps en temps, il y a un petit décalage, et qu'au bout du compte, quand vous écoutez une heure de musique, vous êtes parti d'une cellule musicale, vous n'avez plus du tout de la même cellule musicale à l'autre bout, et pourtant c'est cette même cellule qui s'est trouvée modifiée. C'est le même et l'autre. Donc c'est une métaphore auditive extrêmement intéressante, parce qu'en plus, elle est séduisante, cette musique-là. Elle est calme, elle est reposante, elle est méditative.
Elle fait du bien.
Oui, au contraire d'un certain nombre de musiques sérielles qui agressent, qui sont désagréables, qui sont purement conceptuelles et cérébrales. C'est de la musique pour musicologues, la plupart du temps. On a des phrases inversées, etc. Et on est très content d'avoir des rétroversions de phrases musicales dans le sérialisme. Tout ça est fort sympathique, mais on n'a pas d'émotions corporelles. En écoutant ces musiques-là, on a véritablement des émotions corporelles qui nous mettent en relation avec ce que j'appelle le sublime de la nature.
Le sublime de la nature avec le cosmos, autour de la question pourquoi une philosophie du cosmos. Je vous propose un dernier éclairage, c'est celui du biologiste Éric Carsenti, directeur scientifique de l'expédition Tara. On parlait tout à l'heure d'aller sur la mer.
Ce que la science nous apporte dans la vie, enfin moi ce que ça m'a apporté, c'est de savoir ma position dans l'univers. Je pense que c'est le plus important, et je pense que ça c'est important pour les. Ce serait important que les gens arrivent à utiliser cette connaissance pour se positionner, parce que faut pas oublier qu'on est, qu'on vit, qu'on meurt, et qu'on vit pas longtemps. On vit 70 ans, 80 ans, peut-être des fois 100 maintenant, mais bon, on vit pas très longtemps. À l'échelle de l'univers, c'est une étincelle, hein, c'est rien du tout. Donc en fait, il faut toujours relativiser ce qu'on est, ce qui en fait rend la mort beaucoup plus acceptable aussi, parce qu'on se dit, bon, bah, finalement, on n'est pas grand-chose, c'est pas grave. Hein. Donc tant qu'on est vivant, on est infini, quand on meurt, on meurt. Donc on fait partie d'un ensemble, si vous voulez... Bah, il faut essayer de le préserver pour nos enfants, pour l'espèce humaine, pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais un jour, la Terre disparaîtra aussi, le Soleil va exploser. Et puis... Donc si vous voulez, je pense que c'est important de connaître tout ça pour se faire une philosophie qui rend la vie assez sereine, finalement, parce que bon, on sait où on est. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal parce que justement, ils savent pas, ils connaissent pas assez ça, et ils n'arrivent pas à se positionner, ils savent pas trop où ils sont. Et donc, ça crée une espèce d'angoisse qui est difficile à gérer, quoi. Ceci dit, je suis aussi angoissé, on est tous angoissés par la mort, hein, de toute façon, mais si vous voulez, ça donne quand même une certaine perspective, quoi.
Cette perspective-là aussi que vous cherchez à ouvrir, Michel Onfray.
Moi, je souscris absolument à tout ça. Je souscris vraiment à tout ça. Je n'ai rien à enlever, à retrancher. Sauf peut-être que il faudrait un peu plus de philosophie pour arriver à moins d'angoisse. Moi, j'ai lu...
Ça marche, en fait ?
Oui, bien sûr. Oui. Autrement, j'arrêterai. Je ferai autre chose. Mais j'ai lu Jean Rostand. J'avais 10-12 ans en pension. Et Pensée d'un biologiste, par exemple, ce genre de choses, des aphorismes. Et je voulais être biologiste, mais j'avais pas compris que c'est pas biologiste que je voulais être. Ce qui m'intéressait chez Jean Rostand, c'était le penseur, c'était l'humaniste. Et en fait, en découvrant la philosophie, j'ai découvert que j'étais plutôt fait pour ça que pour la biologie. Mais j'aime ce biologiste qui nous dit des choses de philosophe et qui nous dit aussi qu'il faudrait probablement un peu plus de philosophie qu'il n'en a pour justement aller au-delà de l'angoisse, parce qu'effectivement, il a absolument raison sur toute la question de la science, sur tout ce qu'il dit, ça c'est formidable ce qu'il a dit, et je comprends qu'il puisse dire, ça angoisse quand même, parce que si on veut enlever l'angoisse, c'est pas la biologie qui nous permet d'enlever l'angoisse, c'est la philosophie, parce que ce qu'il nous dit, il faut le penser, et il a raison de le dire, mais il faut le penser en se disant, ben alors ça veut dire quoi pour soi? Et après, on peut penser, comme Épicure le faisait, hein, je veux dire, moi je porte pas des recettes personnelles dans cette aventure, mais quand Épicure nous dit, la mort n'est rien, parce que si je suis là, elle n'y est pas, et quand elle sera là, je n'y serai plus. On se dit, ouais, d'accord, c'est une belle formule, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'efficace quand on se dit, arrêtons de se pourrir la vie avec la mort, parce que la mort, c'est souvent l'idée qu'on en a. On a du mal à vivre la mort parce qu'on la présentifie. Je suis vivant et j'ai peur de ma mort. Je me dis, ah, je vais mourir. Oui, d'accord, mais c'est souvent un mauvais quart d'heure et souvent on ne le voit pas.
Vous dites d'ailleurs, hein, parmi toutes les maximes que vous citez à la fin de ce livre Cosmos, mourir de son vivant est pire que mourir un jour.
Oui, bien sûr, hélas. Moi, je vois des gens qui sont morts depuis très longtemps C'est des gens dont la seule perspective est d'avoir une grosse voiture, une profession, un mari, des enfants, une maison, d'en mettre plein la vue aux voisins ou ce genre de choses, sont des gens déjà morts, qui se retrouvent le soir et qui regardent la télévision et qui ont une vie, j'allais presque dire végétative, mais je trouve ça parfois presque insultant à l'endroit des plantes. Mais je veux dire des gens qui sont victimes. Hein. J'ai pas de mépris pour ces gens-là.
Le système fabrique des esclaves. Comment s'en sortir justement? Moi, il y a une de vos maximes. Enfin, je crois que c'est celle que je préfère être pour ne pas avoir à avoir.
Oui, ça c'est un propos facile à tenir quand on a, mais c'est une invitation à ce qu'on pourrait appeler la vie simple, ce que les philosophes appelaient la vie simple, c'est-à-dire je ne suis pas contre je ne crois pas qu'il ne faut pas avoir, mais je crois qu'il ne faut pas se faire avoir parce qu'on a, c'est-à-dire que il y a des gens qui courent après des choses et qui ont l'impression qu'ils s'en sont libérés quand ils le refusent et qu'ils le méprisent. C'est une vieille opposition entre Diogène et Aristippe, par exemple. Diogène disait il faut pas d'argent, c'est pas bien l'argent, etc. Et Aristippe disait, mais tu es obsédé par l'argent. À n'en pas vouloir, tu es autant obsédé que celui qui en veut. Et Aristippe disait, j'en ai de l'argent. Et puis quand j'en aurai plus. Et je ne suis pas possédé par l'argent que j'ai. Et je crois que je ne suis pas contre la possession, mais je suis contre le fait que nos possessions nous possèdent. Il ne faut pas posséder nos possessions. C'est transitoire. C'est là, c'est bien. C'est pas là, c'est bien aussi.
Et ça se travaille, tout ça, ça se travaille, oui. D'habiter densément l'instant présent, dernière de vos maximes, sur laquelle vous proposez de nous arrêter.
Oui, je crois. Les gens vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir, et ils ne disent pas qu'ils aiment quand ils aiment, ils ne disent pas qu'ils n'aiment pas quand ils n'aiment pas, et ils font semblant parfois de vivre une vie qu'ils n'aiment pas, ils devraient vivre une autre vie, ils y pensent, ils y aspirent, mais ne la vivront jamais, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le travestissement, ils font semblant d'être bien dans leur boulot, dans leur vie, etc. Et je crois qu'il faut effectivement ne pas faire semblant. La vie est effectivement courte et l'image de l'étincelle dans l'éternité me va bien.
Merci infiniment, Michel Onfray, de ne pas avoir fait semblant et d'être venu philosopher avec nous en dehors des clous et dans le cosmos. Cosmos est donc le titre du premier tome de cette trilogie Brève encyclopédie du monde, publiée aux éditions Flammarion. Merci à vous.
Merci à vous.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, mise au point salutaire sur le dossier climatique pour faire le tri dans la cacophonie d'arguments qui pollue ce débat décisif pour l'avenir de nos sociétés, de notre environnement, avec Sylvestre Huette, auteur des Dessous de la cacophonie climatique. À demain pour en savoir plus, avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre curiosité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.